Les archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. 20 ans après sa très remarquée accession à l'indépendance en 1958, la toute première de toutes les colonies françaises, obtenue après l'audacieux discours d'Ahmed Sékou Touré, qui disait préférer la pauvreté dans la dignité plutôt que la richesse dans l'esclavage, la Guinée, qui était présentée par tous les panafricanistes comme le modèle, semble avoir perdu de son charme. Face à la dictature de son leader, qui, confronté aux complots en tout genre et à l'hostilité des dirigeants gaullistes de l'époque, voit des complots partout et s'en prend à tout ce qui menace son pouvoir. La révolution guinéenne s'est transformée en une féroce dictature. Et en cette fin de la décennie 70, toute une partie de la population en pèle brille. Les Peuls. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, 60 ans d'indépendance de la Guinée. Considéré par Sékou Touré comme le cerveau du complot peul de la diaspora, Diallo Telli a été arrêté et enfermé dans le sinistre camp Boiro, en plein cœur de Conakry, la capitale. Le 1er mars 1977, au petit matin, Diallo Telli décède des suites de la diète noire. L'Afrique perd l'un de ses plus illustres représentants. Il est mort dans la cellule 52 du camp Boiro. Il a succombé à 22 jours de diète noire. Boubacar Diallo Telli. Siaka Touré, le chef de camp, informé, rend immédiatement compte au président Sékou Touré. Mohamed Sako, qui fut secrétaire général du mouvement des jeunesses du PDG, était présent lorsqu'on vient annoncer la mort de Diallo Telli au guide de la révolution guinéenne.
On est venu l'annoncer. Par hasard, j'étais dans son bureau. Telli, Diallo Telli. Il a enlevé et ses lunettes et son bic qu'il a déposé. Il a regardé autour de lui ceux qui sont venus lui annoncer. Je ne vais pas citer leur nom parce qu'ils sont morts maintenant. Mais il a dit sortez. Il dit on me met ça aussi sur la tête. C'est-à-dire on va m'accuser de ça.
Alpha Abdoulaye Diallo, vous étiez prisonnier dans ce fameux camp Boiro à cette date-là. Et même si vous étiez tous enfermés, vous voyiez et saviez, grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes, ce qui s'y passait. Alors, après que l'on ait constaté son décès, qu'est-ce qui se passe ensuite?
On l'a mis dans une couverture et sale, et là, une ambulance, une espèce de jeep est venue pour aller le déposer. Dans un des, comment dirais-je...
Les charniers.
Des charniers, exactement.
Un des nombreux charniers situés dans la banlieue de Conakry. Diallo Telli y est enterré discrètement, sans cérémonie religieuse. Quelques jours après, Sékou Touré va venir personnellement, nuitamment, vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien.
Le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque.
Tierno Diallo Telli.
L'association des enfants des victimes du camp Boiro l'a enregistré sur film. Nous racontant comment Sékou Touré est passé le chercher dans la nuit du 1er mars 1977 en lui disant « Accompagne-moi ». Ils sont arrivés quelque part dans Nongo. Et la nuit, donc, ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement. Dans Nongo, c'est un quartier périphérique. Et là, il y avait des militaires à la lumière de torches et de lampes tempêtes qui avaient creusé un trou. Les deux, Sékou Touré et le maire, se sont poussés sur le trou et le maire a été terrorisé. Il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une culotte bleue, bleu marine, qui est la tenue connue des prisonniers politiques. Et il lui dit, tu vois l'homme au fond du trou là? Le maire dit oui. Il dit, ça c'est le premier secrétaire général de l'OUA.
Plusieurs mois après, la famille de Diallo Telli n'est toujours pas au courant de sa mort. Aucune information ne filtre de cette prison pourtant située en plein cœur de Conakry. Même les rares prisonniers qui sont libérés restent muets sur ce qui s'y passe. Comment expliquez-vous cela, Portos, vous qui avez finalement été libéré un peu plus tard?
On nous prévient à la libération. Si vous révélez quoi que ce soit de ce qui se passe dans le camp, je l'ai d'ailleurs mis dans la vérité du ministre, on vous reprend. comprendra et cette fois-ci, ce sera sans pardon.
Madame Kadidiatou Diallo-Télé, vous espériez toujours qu'il était en prison pendant tout ce temps, jusqu'en 1979?
Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais vous savez, dans ces conditions-là, on se dit toujours, peut-être, on ne sait jamais. Mais nous n'avons pas été informés pratiquement jusqu'à la sortie de Diop Alassane. On n'a pas su qu'il était mort. Finalement, quand Diop Alassane est sorti de prison, un de mes enfants, l'aîné, a fui la Guinée et est arrivé à Dakar.
Tierno.
Tierno a rencontré Diop Alassane qui lui a confirmé que son père était mort.
C'est vous donc, Tierno Diallo-Télé, qui informez votre mère de la mort de votre père.
Dès que j'ai fui la Guinée en 79, je suis arrivé à Dakar. L'ancien ministre Diop Alassane, qui avait été le premier ministre de l'information de la Guinée, avait été libéré à la demande du président Senghor et réexpédié dans son pays d'origine. Il m'a fait rechercher, amener chez lui et m'a informé que mon père était mort de faim et de soif le 1er mars 77 au Kumbaro. Il était un des témoins oculaires. En même temps que le ministre Portos, le ministre Gomez, ils étaient tous là témoins.
Malgré cette information, cette fuite que vont amplifier les médias internationaux, Sékou Touré continue de nier la mort de Diallo-Télé. Il s'insurge contre la presse qui en fait mention. L'entourage du président, la présence de sa famille dans les hautes sphères du pouvoir sont autant d'influences qui auraient poussé Sékou Touré plus avant dans la répression. Là encore, les avis divergent. Mohamed Sako, l'ancien secrétaire général du mouvement des jeunes du PDG, le Parti démocratique de Guinée.
C'est les Tchèques qui nous ont construit le Kambouaro. Quand on est venu lui montrer le plan des cellules, 2 mètres sur 2 ou 2 mètres sur 1 mètre, sa réaction première, et là j'ai des choses vécues, hein, il a dit, on peut mettre un homme dans une cellule, il l'a vu, les dispositions. Et un autre cadre, je ne vais pas citer son nom, il ne vit pas, mais il a sa famille, qui a dit, non, président, la révolution a besoin de ça.
Kadiatou Touré Diallo, enseignante et militante de la révolution, ancienne prisonnière du Kambouaro.
Quand on est revenu là-bas, on a arrêté la femme de Petit Touré, qui avait trois mois de grossesse. On est venu la prendre une nuit. Elle est partie. On a attendu que j'accouche. On avait le baptême. 10e jour, à 2h du matin, et après, il y a plus de 10 véhicules qui sont venus me chercher. Quand je suis sortie, c'est ce que j'ai vu, parce que là, c'est ma maman qui est venue en rampant, c'était le mois de carême, elle ne savait plus, faisait plus la différence entre le jour et la nuit. Parce que déjà, on avait pris mon frère, on prend ma belle-sœur, on prend mon frère, et maintenant on vient nous prendre. Et si ma mère dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ils sont rentrés, ils disent, Cagnette, on te cherche. Le temps d'ouvrir la porte, la chambre était remplie de tout le monde. La fédération, la jeunesse de la fédération, les responsables politiques, commissaires, police, gendarmes, milices, pour me prendre. J'ai pris mon bébé avec quelques habits. Je dis allons, je suis prête.
André Levin, premier ambassadeur de France en Guinée.
Son demi-frère, Ismaël Touré, à mon avis, est un de ceux sur lequel tout le monde s'accorde. Et Sékou Touré lui-même, d'ailleurs, à plusieurs reprises, m'a dit qu'il ne faisait pas foi entièrement à ce qu'il lui disait. Je lui ai dit un jour, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous avez laissé éliminer un certain nombre de gens autour de vous qui étaient en fait tout à fait fidèles à vous, à votre personne, au peuple guinéen, à la révolution? Et il m'a dit, je crains que vous n'ayez raison.
Alpha Abdoulaye Diallo, dit Portos, ancien ministre de Sékou Touré, est prisonnier du Kambouaro.
Ceux qui disent que Sékou Touré n'était pas au courant minimisent Sékou Touré. Ils le minimisent. C'était le maître d'œuvre de tout. J'ai été dans son entourage. Je sais qu'aucun de ses collaborateurs n'osait l'affronter. Un seul, de temps en temps, s'érigeait. C'était le général Lansanagani. Un jour, on était en conseil des ministres, BPM, conseil des ministres. C'est quoi, commencer à parler de l'impérialisme, de l'impérialisme. Le général Yanné a tapé sur la table, il a dit, président, maintenant, nous, l'impérialisme, c'est toi. C'est quoi, l'a regardé et il a dit, la séance est levée.
Kadiatou Touré Diallo, enseignante et militante de la Révolution, ancienne prisonnière du Kambouaro.
Ils se droguaient. J'ai vu à Bijan les comprimés, on les appelle là-bas comprimés, Sékou Touré. Mais ces discours des heures et des heures, c'est pas naturel. Moi, j'étais responsable de la GRD. Un jour, on est venu, on devait faire un meeting. Ceux qui se promenaient dans le salon, il allait, il revenait, les yeux rouges. Mais il ne pouvait pas s'asseoir. Il s'assoit un peu, il se lève. Il tourne, il ne voyait, il ne regardait personne. Boundam a dit, le chef de protocole, il dit, je crois que les gens attendaient dans la salle, à la permanence. Il était 18h, quelque chose qui devait commencer à 17h. Il dit, je crois qu'on ne va pas faire autre. On va trouver un mensonge. On va dire, parce que c'était la saison pluvieuse, qu'il pleut trop, les gens n'ont pas pu sortir massivement. On n'a qu'à reporter ça, parce que ceux qui l'aiment, on n'a qu'à reporter.
Loin de son image de tyran, ceux qui l'ont fréquenté retiennent de ses coups tourés sa simplicité. Abordable, le camarade président avait l'habitude de tenir audience dans son propre salon, sans protocole. Sa table était simple, ses plaisirs plus encore. André Touré, sa veuve.
Le président était très, très, très abordable. D'abord, il n'avait pas de standard. Son téléphone était direct. Vous pouvez être n'importe où, les Guinéens avaient son numéro de téléphone. On pouvait l'appeler à toute heure du jour et de la nuit. Il vivait très simplement. Il avait une vie très modeste. Il voulait vivre comme son peuple.
Un président est à la fois près du peuple et loin du peuple. Devant le peuple. Pour prévoir les étapes.
Il n'avait rien d'extraordinaire. Quand il avait quelques moments de loisir, il aimait avec ses amis jouer aux yeux de dame. Où il se promenait, sortait tous les soirs avec ses amis en voiture, il conduisait lui-même la voiture, il sillonnait la ville. De temps en temps, comme il aimait danser, on organisait des petites matinées dansantes. Il aimait bien, c'est un homme qui a vécu comme n'importe quel homme. Hein.
Mohamed Sako, son ancien ambassadeur.
Et quand il faisait un tour à l'intérieur du pays, il allait avec des cadres. Première réaction des secteurs, c'était de savoir d'abord est-ce que les chauffeurs ont mangé.
Pourtant, les meetings populaires et les congrès du parti, où il était sans cesse réélu, ressemblaient à s'y méprendre à des manifestations en son honneur. Le sourire aux lèvres au volant de sa voiture, son éternel mouchoir blanc à la main. Le tortionnaire qui téléphonait à ses victimes du camp Boireau pour savoir s'il n'avait besoin de rien. Sékou Touré était tout cela à la fois. Un esprit vif que personne n'a vraiment jamais pu cerner. Alpha Abdoulaye Diallo, dit Portos, son ancien ministre.
Ce serait une banalité de dire que Sékou Touré n'était pas banal. Il avait une vive intelligence, il avait un objectif et c'était un politique. Un jour, quand il y a eu le changement de régime en Algérie, il y a le secrétaire général de l'OUA qui a envoyé sa femme avec une lettre pour moi et une lettre pour le président Sékou Touré. Et il insistait pour que le président lise la lettre avant ses entretiens avec Bouteflika. J'ai reçu ma lettre, quand je l'ai lue, je suis allé, les entretiens avec Bouteflika avaient déjà commencé. J'ai tapé à la porte, il m'a répondu, oui, c'est qui ? Je suis entré, il dit, qu'est-ce qu'il y a pour toi ? Je lui ai tendu mon petit bout de papier. Du tac au tac, il a lu l'ambassadeur, président, l'ambassadeur de Grande-Bretagne sollicite un rendez-vous avec vous à haute voix. Et ce n'est pas ce que j'avais écrit. Il dit, bon, il dit Abdelaziz, on va suspendre la séance pour le déjeuner et on reprendra après le déjeuner. Et on a raccompagné Abdelaziz Bouteflika. Et il m'a dit où est cette lettre.
Au plus bas dans l'opinion internationale, en proie aux difficultés économiques, Sékou Touré décide d'améliorer son image, de revoir sa diplomatie. Un premier rapprochement s'effectue en 1972 avec la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, son ancien mentor, puisqu'il a fait ses armes dans la branche guinéenne de son parti, le Rassemblement démocratique africain, qui deviendra par la suite le PDG, le Parti démocratique de Guinée. Vient ensuite le rapprochement avec Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Pour la France, il faudra attendre le départ des gaullistes, farouchement opposé à Sékou Touré, l'enfant terrible de l'Afrique noire francophone. En ce matin de novembre 1978, Sékou Touré attend, ému sur la piste d'aéroport de Conakry, le chef de l'État français dont l'avion vient d'atterrir. Peut-être revit-il l'espace d'un instant l'événement d'août 1958 qui a tant marqué le destin de la Guinée. Cette fois-ci, il s'agit de Valéry Giscard d'Estaing et non plus du général de Gaulle. Pour la première fois en 20 ans, un président français se rend en Guinée.
Le peuple français et le peuple guinéen sont deux peuples animés du même idéal progressiste. Et il est heureux qu'en 1958, ils se soient libérés l'un et l'autre d'une situation historique qui constituait un obstacle à l'éclosion entre eux d'une amitié féconde et durable. La République française et la République populaire révolutionnaire de Guinée sont deux nations liées par l'identité de leurs options pour les idéaux de liberté, d'égalité, de progrès social et de paix qu'elles poursuivent pour assurer de façon permanente le bonheur démocratique de leurs citoyens et l'équilibre interne de leurs peuples respectifs.
Nous respectons ensuite votre liberté, c'est-à-dire en particulier vos choix politiques. Chaque peuple doit rester libre de son choix.
La réconciliation franco-guinéenne a eu lieu 3 ans auparavant.
J'avais obtenu de Giscard d'Estaing, sans doute je dirais au début du mois de décembre 1974, que dans le communiqué que j'avais préparé, il accepte une formule sur laquelle Sékou Touré avait beaucoup insisté, la France regrette. Alors, j'ai vu Giscard d'Estaing, il a voulu me voir et m'interroger en me disant « Mais est-ce que vous êtes sûr que si j'accepte le mot « regrette », ça va clore le dossier et ça conduira à la libération de nos compatriotes. » Je lui ai dit, Monsieur le Président, je pense qu'il tiendra parole et que les prisonniers français seront libérés. Donc le communiqué à ce moment-là était prêt.
Le 14 juillet 1975, Sékou Touré libérait les prisonniers français du Camboiro.
Et j'ai vu arriver donc 3 jeeps avec les prisonniers. Et j'ai vu qu'ils étaient 18, alors que sur la liste que j'avais, il devait être au moins 4 de plus. Donc je suis retourné voir Sékou Touré en lui disant, Monsieur le Président, bon, 18 c'est bien, mais enfin, si vous faites le geste, il faut le faire complètement. Alors il a dit, bon, d'accord. Et quelques 10 minutes ou 15 minutes après, j'ai vu arriver les 4 ou 5 qui me manquaient en quelque sorte. Et puis Sékou Touré m'a invité à déjeuner. Mais à la fin, il m'a pris par surprise, parce que c'est quelque chose qu'il adorait faire. Il aimait bien prendre des initiatives imprévues ou imprévisibles. Il m'a dit, voilà, maintenant que la normalisation est décidée, à partir d'aujourd'hui, la semaine prochaine, je veux qu'il y ait une délégation conduite par le Premier ministre qui aille à Paris. Bon, j'ai dit, ça va en plein mois de juillet, alors que les vacances sont là, le lendemain du 14 juillet, je ne suis pas sûr, il m'a dit... Je vous fais totalement confiance.
À la fin des années 70, Sékou Touré lance une offensive diplomatique. Il veut redorer l'image de son pays à l'étranger, se réconcilier avec ses anciens ennemis politiques. Mais en a-t-il le temps et les moyens, notamment dans cette période de guerre froide? La Guinée va-t-elle enfin sortir de l'isolement qui plombe son développement? Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour en parler dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Les archives d'Afrique.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Le peuple français et le peuple guinéen sont deux peuples animés du même idéal progressiste. français et le peuple guinéen sont deux peuples animés du même idéal progressiste. Et il est heureux qu'en 1958, ils se voient libérés l'un et l'autre.
Moment d'émotion intense pour ces coutourés ce matin de novembre 1978. Après 20 ans de brouille, un président français atterrit sur la piste de l'aéroport de Conakry où le grand Sidi est venu l'accueillir. C'est de ce même aéroport que le général de Gaulle, vexé par son discours réclamant l'indépendance, est parti 20 ans plus tôt, rompant tout dialogue, toute relation avec le jeune État. Pendant 20 ans, il a survécu à l'hostilité de Paris, au complot destiné à faire tomber son régime. Une hostilité qui a fini par faire de lui un féroce dictateur, se méfiant de tout, voyant de menaces partout. En ce mois de novembre, même s'il dit ne pas regretter son discours de septembre 58, il ressent une certaine émotion en renouant avec Paris. Le général de Gaulle est mort, son successeur Georges Pompidou aussi. Le nouveau chef de l'État français, Valéry Giscard d'Estaing, semble avoir choisi d'en finir avec la brouille. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, 60 ans d'indépendance de la Guinée.
Excellence, Monsieur le Président de la République française, c'est le lieu et le moment de lever toute équivoque sur notre volonté. Depuis le 12 octobre 1958, date de la création de l'État de Guinée, d'organiser et de développer constamment une coopération fraternelle et sincère avec le peuple français, dont nous connaissons l'attachement profond aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité et dont le rôle est éminent dans l'évolution des peuples du monde vers la démocratie et le progrès historique ne fait l'ombre d'aucun doute.
Nous respectons ensuite votre liberté, c'est-à-dire en particulier vos choix politiques. Chaque peuple doit rester libre de son choix.
André Lévin, ambassadeur de France et artisan de cette réconciliation, avec Paris.
J'avais obtenu de Giscard d'Estaing, sans doute je dirais au début du mois de décembre 1974, que dans le communiqué que j'avais préparé, il accepte une formule sur laquelle Sékou Touré avait beaucoup insisté, la France regrette. Alors, j'ai vu Giscard d'Estaing, il a voulu me voir et m'interroger en me disant « Mais est-ce que vous êtes sûr que si j'accepte le mot « regrette » ça va, d'abord ça va clore le dossier et ça conduira à la libération de nos compatriotes. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi je pense qu'il tiendra parole et que les prisonniers français seront libérés.
Le 14 juillet 1975, Sékou Touré libérait les prisonniers français du camp Boiro.
Et j'ai vu arriver donc trois jeeps avec les prisonniers. Et j'ai vu qu'ils étaient 18, alors que sur la liste que j'avais, ils devaient être au moins 4 de plus. Donc je suis retourné voir Sékou Touré en lui disant, Monsieur le Président, bon, 18 c'est bien, mais enfin, si vous faites le geste, il faut le faire complètement. Alors il a dit, bon, d'accord. Et quelques 10 minutes ou 15 minutes après, j'ai vu arriver les 4 ou 5 qui me manquaient en quelque sorte.
La réconciliation avec Paris est pour Sékou Touré le signe d'un nouveau départ. Maintenant que la brouille est dissipée, il peut envisager un retour en force sur la scène internationale. À la fin des années 70, il se lance dans une grande offensive diplomatique. Il veut redorer l'image de son pays à l'étranger, se réconcilier avec ses anciens ennemis politiques. L'homme au boubou blanc voyage désormais intensément. Il donne son soutien à Hissène Habré dans le conflit qui oppose le Tchad à la Libye.
Le Tchad, depuis 17 ans, connaît une situation dramatique caractérisée par l'insécurité, la déstabilisation du régime.
Très actif dans le monde arabe, il fait entrer la Guinée dans l'organisation de la conférence islamique. Il prend part, entre autres, au comité de travail sur le Sahara occidental. Sa diplomatie, sa grande connaissance de l'islam en font un négociateur apprécié. Chose rare pour un chef d'État d'Afrique noire dans le monde arabo-musulman. Grand croyant, il effectue son troisième pèlerinage à la Mecque et prend le prénom d'Ahmed. En mai 1982, il est reçu à Paris par le président François Mitterrand.
Les relations franco-guinéennes connaîtront un avenir merveilleux. C'est la prédiction du président Sékou Touré à sa sortie de l'Elysée après le déjeuner qu'il a eu avec François Mitterrand. Vêtu de son traditionnel boubou blanc et de sa toque de feutre, le chef de l'État guinéen a exalté la communauté d'objectifs entre Paris et Conakry. Mais lorsque, dans la cour de l'Elysée, Jean-Noël Cadou lui a posé une question sur les droits de l'homme et sur les 8 Français disparus en 1970, le président Sékou Touré s'est quelque peu fâché. Écoutez.
Il y a eu en Guinée une agression préparée par l'impérialisme. Des Guinéens se sont enrôlés dans des camps. Ils ont massacré 360 personnes. Ceux-là ont été jugés, certains ont été condamnés. Mais si on essaie de faire croire qu'il s'agissait des Français, aucun n'est Français. Tous sont des fils de Guinée. Certes, ils avaient épousé des Françaises. Mais la double nationalité, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas une question de droit de l'homme, là. La France nous a donné l'exemple. Et je disais, Historia, votre revue, numéro 36, numéro 41, vous parlez de l'histoire de la France. Là, ce ne sont pas 8 qui ont été exécutés, mais des centaines, plus de 100 000 personnes ont été exécutées par le peuple français, et le peuple français a raison. La Révolution française est pour nous un symbole. Quand la Guinée défend ses mêmes valeurs, vous voulez l'accuser de quoi? Les droits de l'homme sont mieux respectés en Guinée que dans certains pays du monde.
En tout cas, les épouses françaises de ces 8 franco-guinéens exécutés ont voulu manifester leur indignation. Aujourd'hui, elles ont lâché dans le ciel de Paris des ballons multicolores qui portaient le nom de chacun des disparus.
Sékou Touré va participer au sommet France-Afrique de Vittel en octobre 1983. La grande famille france-africaine a retrouvé son enfant terrible. Après 20 ans de retrait, Sékou Touré reste incontestablement l'un des leaders de l'Afrique. Son discours, plus posé, ne manque cependant pas de piquant dès qu'il s'agit d'évoquer le passé et les critiques dont il faisait l'objet.
La Guinée qui a été seule à dire non au général de Gaulle, à s'engager dans l'indépendance, à exercer souverainement tous les attributs de sa liberté. Il faut que dans l'histoire, ce choix apparaît comme négatif. J'ai lu des articles du Monde contre M. Sékou Touré et contre la Guinée. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, vous qui êtes jeune, je dis, j'ai l'espoir qu'il y aura du renouveau. Et ce que vous appelez les prisonniers politiques n'existe pas en Guinée. Il a été créé par vous, par les Français.
Sur le plan intérieur, c'est la détente. Les arrestations se font plus rares. La libéralisation du petit commerce est chose acquise. Sékou Touré entre en guerre contre la corruption qui touche certains hauts cadres du parti. Visiblement, à partir de la normalisation en 1975 avec la France, le vieux chef a relâché sa garde et mis fin au complot permanent qu'il avait décrété quelques années auparavant. Il faut dire que les gaullistes n'ont jamais caché leur aversion pour Sékou Touré et qu'ils ont contribué plusieurs fois à déstabiliser son régime. Ce qui est sûr, c'est que le président a amorcé un virage dans sa politique.
Je l'ai vu revenir d'Abidjan, où il avait fait donc un premier voyage depuis très longtemps, Abidjan Yamoussoukro. Et à l'aéroport, je lui ai demandé, alors quelles sont vos impressions sur la Côte d'Ivoire? Et il m'a dit, ben, je suis bien obligé de reconnaître qu'on a beaucoup fait là-bas, notamment pour les paysans, les éleveurs, etc., etc. Et pour la première fois, je prends conscience de ce que le nom de 1958 a coûté à la Guinée. Je dis, tiens, ça c'est une phrase intéressante, etc. Puis après un silence, il a dit, ceci dit, je ne regrette pas ce que j'ai fait, parce qu'il avait toujours besoin de, en quelque sorte, de se justifier. Mais je sais aussi par le témoignage d'un médecin qui l'a ausculté, examiné sérieusement quelques mois avant sa mort, et qui lui a dit, vous avez, je ne sais pas exactement ce qu'il avait, problème cardiaque, problème d'ulcère ou de cancer à l'estomac, etc., etc. Donc Sékou Touré lui a posé comme première question, donc est-ce qu'il y a un traitement pour ça? Et l'autre lui a dit, oui, il faudrait vous opérer, etc., etc. Et Sékou Touré lui a dit, est-ce que ça me laissera le temps de réparer le tort que j'ai fait à mon pays?
Novembre 1983. Le palais du peuple, bondé, frémit d'applaudissements à chaque fois que le nom du guide suprême de la révolution est prononcé. C'est le 12e congrès. la grande messe des militants rassemblés pour réélire le secrétaire général du parti État. Sans aucune surprise, Ahmed Sékou Touré est reconduit à la tête du PDG, le Parti démocratique de Guinée, sous les acclamations de son peuple. Fort de son offensive diplomatique et du soutien apparent des Guinéens, le président a une autre raison de se réjouir. Dans quelques mois, en mai 1984, Conakry accueillera le 20e anniversaire de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, l'institution dont il est l'un des pères fondateurs, un événement qui lui tient à cœur. Mais c'est sans compter sur le destin qui va frapper brutalement Ahmed Sékou Touré.
Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, peuple du monde, le bureau politique national du Parti démocratique de Guinée prend à la connaissance du peuple militant et croyant de Guinée la tragique nouvelle ci-après. À la suite d'une attaque cardiovasculaire survenue dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 mars 1984, le camarade Ahmed Sékou Touré, responsable suprême de la révolution, président de la République populaire révolutionnaire de Guinée, a été transporté immédiatement à l'hôpital de Cleveland, aux États-Unis d'Amérique, où ont été entrepris des examens approfondis. Les examens ont prouvé l'existence d'une dissection étendue de l'artère aorte, toujours fatale en l'absence d'intervention chirurgicale urgente. C'est au cours de cette intervention que Dieu le Tout-Puissant a rappelé à lui le grand révolutionnaire et sincère croyant que fut le président Ahmed Sékou Touré. Il était 20h23, temps universel, le lundi 26 mars 1984.
C'est avec des sanglots dans la voix que Luil Nsana Béavogui, son premier ministre et ami de toujours, annonce à une population guinéenne stupéfaite la fin de l'ère Sékou Touré. Le grand Sidi s'est affaissé.
Il a eu l'ordre qui a cédé. Comme je vous ai dit, c'est un homme qui travaille énormément. Et les derniers temps de sa vie, il travaille encore davantage. Le président avait trois groupes de secrétaires qui se reliaient, les 24 heures autour de lui. Et le dernier meeting, c'était avec les travailleurs. C'était un jeudi, je crois que c'était le 22 mars. Et après le meeting, il est rentré, il était fatigué. Il était fatigué. Mais comme il n'aimait pas se reposer, il est allé encore au bureau. Moi, j'avais bien constaté qu'il était fatigué. Je lui ai dit, écoute, vraiment, personne n'arrive plus à suivre ta cadence. Je lui ai dit ça ce jour-là. J'ai dit, tout ton entourage est fatigué. Si tu ne fais pas attention, tu vas enterrer tout le monde et tu te retrouveras seul. Et c'est lui qu'on a enterré une semaine après.
Homme de contradiction jusqu'à la fin, c'est aux États-Unis d'Amérique, à des milliers de kilomètres de son peuple, qu'il décède. Les circonstances de sa mort sont claires. Pourtant, la rumeur sur la disparition de son corps court toujours à Conakry. Alpha Abdoulaye Diallo, ancien ministre de Sékou Touré.
Il a toujours dit, personne ne dira de moi, voici l'ancien président de Guinée. Il l'a toujours dit en public. Et il a toujours dit aussi, personne ne verra mon corps. Et personne ne l'a vu. Tous les présidents, il y avait plus de 18 chefs d'État qui étaient là. Oufouette a insisté pour qu'il voie une dernière fois le corps de son jeune frère. Impossible.
Adja André Touré, la veuve de Sékou Touré.
Ils ont voulu qu'on expose le corps, ce qui ne se fait pas en Islam. Exposer le corps. Mais le corps est bienvenu. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit comment. On l'a largué, puisque nous avons pris l'avion de Cleveland directement à Conakry. Le corps a pu passer. Je dis, est-ce que vous pensez que le vice-président des États-Unis va se déplacer pour venir enterrer un cercueil vide? Le corps est bienvenu. Le corps a été... On a fait la toilette funèbre ici. Ce sont les imams qui sont venus du Maroc, les oulémas du Maroc, qui ont fait la dernière toilette à laquelle la famille a participé. Et il a été enterré ici.
Dans l'ordre, la discipline et la sérénité, c'est une longue procession d'hommes, de femmes et d'enfants qui prouve l'attachement liant le peuple guinéen à son grand leader. Des délégations d'autres pays viennent s'incliner, se recueillir et prier devant le cercueil, recouvert de l'emblème national guinéen et noyé sous des dizaines de couronnes de fleurs.
18 chefs d'État et de gouvernement se pressent aux funérailles. Ce soir du lundi 26 mars 1984, s'ils sont quelques milliers, comme le premier ministre Luis Lansana Beavogui, ami de toujours du président Sékou Touré que nous venons d'entendre, à ne pas retenir leurs sanglots après la mort du grand Sidi, ils sont au moins autant à se réjouir de ce qui est vécu dans l'instant par tous comme un tournant décisif, la fin d'une ère pour la Guinée. Notamment dans les prisons où ce deuil exhume un parfum de liberté. Pendant que se déroulent de grandes funérailles pour le grand Sidi qui s'est affaissé, et que le PDG, le Parti démocratique de Guinée, sombre dans de violentes querelles de succession, une seule semaine seulement après la mort de Sékou Touré, le système qu'il a mis en place pendant plus de deux décennies s'effondre comme un château de cartes.
Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, peuple du monde, en ce jour, 3 avril 1984, les forces armées guinéennes, en répondant à l'appel du peuple de Guinée, ont pris en main les destinées du pays sans effusion de sang, dans un calme total et dans un enthousiasme populaire. Le comité militaire de redressement national, actuel organisme dirigeant, premièrement, affirme sa totale adhésion à la charte des Nations Unies, à celle de l'Organisation de l'Unité Africaine et au principe du non-alignement. Deuxièmement, souhaite une coopération amicale avec tous les pays du monde et particulièrement fraternelle avec les pays africains dans le cadre de la réalisation des nobles idéaux de liberté, de dignité et de solidarité africaine toujours défendus par le peuple courageux de Guinée. Troisièmement, respecte les termes des accords passés avec tous les pays du monde. Quatrièmement, ordonne à compter de ce jour la libération de tous les détenus politiques arbitrairement privés de leurs droits naturels à la liberté et à la justice sociale.
Dans l'instant, les Guinéens, encore plongés dans le deuil, s'interrogent sur ce comité militaire de redressement national qui rend ainsi officiel le rejet du système Sékou Touré. C'est le début d'une nouvelle ère en Guinée. Va-t-il améliorer le sort du peuple ? C'est aussi le moment où le monde va découvrir l'enfer que vivaient des milliers de prisonniers en Guinée. Comme nous le verrons dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale, 60 ans d'indépendance de la Guinée. La fin de l'ère Sékou Touré ne signifie pas forcément le changement. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter les 8 premières parties de cette série sur le site de RFI dans la rubrique Les émissions ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook Archives d'Afrique, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Merci pour cette confiance. Olivier Raoul, Marjorie Bertin et Alain Foka, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.